proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Gilles Rosier, des éditions de l'Antilope.
Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Gilles. Alors on vous connaît bien sur l'antenne de Radio Shalom. Vous êtes ici chez vous avec Anne-Sophie Dreyfus. Vous dirigez les éditions de l'Antilope depuis 6 ans maintenant, c'est ça 6 ans
5 ans.
5 ans. Bon, on a gagné une année. Alors vous ne cessez de vous réinventer, notamment par le choix des auteurs que vous accueillez et des thématiques que vous abordez. Et aujourd'hui, votre actualité, c'est l'Antilope Poche, la collection de poches des éditions de l'Antilope. Qui dit collection de poches dit prix réduit. Est-ce que ça s'imposait aujourd'hui?
Oui, bah effectivement, ça nous permet d'atteindre un nouveau public, d'avoir des livres qui sont deux fois moins chers que lorsqu'ils sont sortis en grand format.
C'était ça l'objectif ?
C'était un des objectifs. Le deuxième, c'était de pouvoir proposer à nos auteurs, à certains de nos auteurs, d'avoir une déclinaison en poche, parce que de nos jours, un livre grand format, il reste un an dans les rayons des librairies, et puis après, il disparaît. Le poche, il a une plus grande durée de vie. Et comme les collections de poches, les grandes collections de poches sont de plus en plus difficiles et moins en moins généreuses, surtout, c'était devenu beaucoup plus intéressant pour nous de créer une collection de poches pour être totalement indépendant.
C'est officiel depuis quelques semaines ?
Ah bah les trois premiers titres sont parus début mars, donc effectivement c'est tout à fait officiel.
Alors on va dire un mot, donc ça paraît en plein confinement, en pleine pandémie, du côté des lecteurs, du côté des auteurs et vous du côté de l'éditeur, comment ça se passe une crise du coronavirus à gérer ?
Alors on a eu très peur il y a un an, comme tout le monde évidemment, mais finalement le livre s'est plutôt bien porté cette année. La concurrence du cinéma, du théâtre, etc., comme il n'y en a plus, les gens ils sont chez eux, ils ont tendance à pas mal lire, donc les libraires ne se plaignent pas du tout. Nous on a fait une année correcte, je dirais pas extraordinaire, loin de là, on a fait moins de chiffre d'affaires que l'année dernière, mais vive la France pour certains côtés. Les aides d'État nous ont permis de sauver la mise pour 2020. Donc, on recommence l'année 2021 assez serein. Et les librairies sont ouvertes, puisqu'elles sont considérées comme des commerces de nécessité à présent. Donc, on ne va pas se plaindre, disons.
Oui, on s'est battu pour ça. Mais c'est étonnant ce que vous dites. C'est que finalement, vous vous maintenez en termes de vente. Moi, j'aurais pensé que les ventes auraient explosé, que les gens restant chez eux auraient lu davantage.
Bon, alors après, ça n'a pas explosé, c'est-à-dire que les libraires disent qu'ils s'en sont sortis en 2020. En ce qui nous concerne, on a eu moins de nouveautés parce qu'on l'avait prévu comme ça. Et une petite maison d'édition, si elle a moins de nouveautés, elle fait moins de chiffre d'affaires. Mais disons que le livre qui est sorti au mois de mai-juin d'Agata Tuschinska, un très beau livre, il a un petit peu pâti de la pandémie, je dois dire. Mais par exemple, le livre de Sabil Goussoub qui est sorti fin août, Beyrouth entre parenthèses, a bien marché, aussi bien que le précédent, puisque c'est son deuxième titre chez nous. Et ensuite, le livre de Peretz que nous avons publié au mois d'octobre, Histoire des temps passés et à venir, ça s'est bien passé aussi, mais sans être extraordinaire.
Vous recevez toujours autant de manuscrits ou ça se calme un peu ?
Ah non, on reçoit toujours autant de manuscrits, peut-être de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de notoriété.
Alors, Antilope Poche, c'est un nom agréable à dire en plus. Vous rééditez donc des livres de votre collection, de votre catalogue de l'Antilope ou est-ce qu'il y a des nouveautés ?
Alors, systématiquement, on a l'intention de publier 5 livres par an à l'Antilope Poche. On en publie 5 en grand format et on va essayer de publier 3 livres de notre catalogue et 2 livres venant de l'extérieur. Soit des livres, ce qu'on appelle dans le domaine public, c'est-à-dire qui n'ont pas été publiés depuis très longtemps, soit des livres d'autres catalogues d'éditeurs dont on estime qu'ils seraient bien à l'Antilope Poche.
Alors on va parler des 5 premiers dans un instant, mais au préalable, il faut dire que vous donnez un soin particulier au visuel, aux éditions de l'Antilope. Est-ce que c'est conservé dans l'Antilope Poche ?
Ah oui, tout à fait. Alors bon, il ne faut pas se leurrer, un livre de poche, on essaye de serrer les coups, de manière à ce que ce soit plus rentable, puisqu'il est vendu 2 fois moins cher, il faut quand même qu'on ait une marge à un moment donné. On refuse toujours d'imprimer à l'étranger. Je dois dire que c'est un engagement personnel d'Anne-Sophie et de moi-même d'imprimer en France. On ne peut pas lutter contre la désindustrialisation à titre personnel et à titre professionnel faire exactement le contraire. Donc on continue à faire ça, ce qui nous coûte un peu cher quand même. Mais effectivement, on a pris un grand soin pour le visuel de l'Antilope Poche également. Et surtout, ce à quoi on a fait attention, c'est que comme l'Antilope est très repérée, a bien fidélisé un certain nombre de lecteurs, on a fait attention à ce que les gens, quand ils voient un livre de l'Antilope Poche, ils se disent tout de suite, ça a une relation avec l'antilope. En termes de visuel, pas seulement le nom, évidemment, mais en termes de visuel, on se dit tout de suite, l'antilope poche, c'est l'antilope.
C'est votre signature aussi, la couverture. Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Gilles Rosier, des éditions de l'Antilope et de l'Antilopoche. 5 titres ont été publiés. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du catalogue?
Alors, au mois de mars, on en a publié 3. On en publiera 2 autres au mois de septembre.
Oui.
Les 3 premiers, alors l'urgence...
Alors, ceux qui ont déjà apparu aux éditions de l'Antilope.
Oui,
ont
voilà.
Été,
Alors, sur les 3 qui sont parus en mars, il y en a 2 qui sont déjà parus à l'Antilope.
Ouais.
Pour nous, l'évidence et l'urgence, c'était de republier Entre les murs du ghetto de Vilno, de Yitzhak Rudeshevski, donc le journal intime d'un adolescent dans le ghetto de Vilno, qui est vraiment une sorte de journal d'Anne Frank, tout à fait extraordinaire. Parce que, entre autres, les enseignants nous avaient dit, tant qu'il n'est pas au prix poche, on ne peut pas le prescrire à nos élèves de collège. Donc à présent, c'est fait. Tous les enseignants de France vont pouvoir, s'ils ne connaissent pas encore ce livre, le lire, qui est vraiment un livre extraordinaire. Et surtout, c'est vraiment un livre aussi pour les adolescents, parce que c'est un adolescent qui parle de sa vie, et de sa future mort dans le ghetto de Vilno. Ça, c'est le premier titre. Le deuxième, puisque nous avons publié en grand format au mois de mars, ça c'est un peu des techniques d'éditeur, le deuxième roman de Ludwig Herman Wanda qui s'appelle Balance ta haine, eh bien son premier roman qui avait été publié il y a 2 ans et demi, Prison, nous avons décidé de le publier en collection de poche. Il avait très bien marché en grand format et donc on a estimé qu'il va bien continuer sa vie en édition de poche.
Et alors, est-ce que vous envisagez les contes juifs de Léopold Sacher-Masoch?
Alors, les contes juifs de Léopold Sacher-Masoch, on les publie au mois de septembre.
D'accord.
Alors, c'est vrai que l'inspirateur du masochisme, qui était un personnage extraordinaire, un grand philosémite qui habitait en Galicie, donc dans l'Empire austro-hongrois, avait pris fait et cause pour la misère des juifs de Galicie. Et il a publié des contes juifs qu'il a écrits en français, alors que c'était un auteur de langue allemande normalement, mais ses contes, il les a écrits en français.
C'est un sujet qui est passionnant parce qu'il était historien, journaliste, il n'était pas juif.
Non.
Il a donné son nom au masochisme et puis il écrit des contes juifs. C'est incroyable comme histoire.
Il l'adapte, ce sont des contes qui existaient mais qu'il a adaptés, à qui il a donné une forme littéraire tout à fait très belle. Et donc ça, ce sera pour septembre.
Alors une autre prévision, c'est le discours sur les juifs du révolutionnaire Stanislas de Clermont-Tonnerre avec sa fameuse phrase « Il faut tout refuser aux juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individu ». Et donc, ça paraîtra aussi à l'Antilope Poche.
Non, celui-ci est paru au mois de mars.
Il a paru,
il est déjà paru.
Je m'en mets les pinceaux.
Il coûte 4,95€.
Alors voilà, c'est pour ça que je voulais que vous insistiez dessus et que vous signaliez.
Oui, alors c'est le discours du comte de Clermont-Tonnerre, mais comme le discours est relativement court, pour faire un volume, nous y avons aussi ajouté des opinions de l'abbé Grégoire, le fameux abbé Grégoire, qui a pris fait et cause pour les Juifs au moment de la Révolution française, et 2 discours de l'évêque de Nancy et un autre du prince de Bourgogne, qui sont plutôt contre le fait d'accueillir les Juifs dans la citoyenneté française. Donc c'est un livre polémique où on a des opinions pour et contre. Mais ce qui m'a fasciné dans ces textes, au-delà de la phrase célébrissime du comte de Clermont-Tonnerre, c'est de voir combien les opinions, les a priori qu'on avait à l'égard des Juifs, 200 ans après, alors en l'occurrence il s'agit moins des Juifs dans la société française qui sont quand même plus acceptés de nos jours, mais on allait même à l'égard des immigrés, des migrants, à l'égard des musulmans ou des arabes. Et d'une certaine manière, on se rend compte que les a priori et les opinions n'ont pas changé depuis 200 ans. Et je trouve ça ces textes sont très éclairants sur toutes les discussions concernant la citoyenneté française à l'heure actuelle.
Alors, c'est moi, quand j'ai vu ce titre-là, j'ai trouvé ça passionnant, puisque c'est l'accession à la citoyenneté, enfin, c'est les débats pour l'accession des Juifs à la citoyenneté et qui résonnent aujourd'hui avec des cas particuliers.
C'est-à-dire que je relisais certains passages hier, et le comte de Clermont-Tonnerre à un moment dit « Mais vous venez de dire que tous les hommes étaient libres et égaux en droit, et vous êtes en train de nous dire que les Juifs ne pourraient pas être citoyens parce qu'ils ont des coutumes particulières, comme si on ne pouvait pas respecter Shabbat et manger kasher et ne pas être un bon citoyen français. » À l'heure actuelle, les mêmes débats se posent sur les musulmans en France. On vous explique que les musulmans, avec leurs coutumes, ne peuvent être ne peuvent pas être, pas tout le monde, mais ne peuvent pas être de bons citoyens français. Donc les choses n'ont pas tellement évolué.
Oui, le laboratoire de la pensée pour les juifs qui se répercute aujourd'hui. Alors il faut dire, hein, Gilles, que ce livre coûte 4,95, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Donc il faut vraiment l'acheter et l'avoir chez soi. Et puis les autres aussi sont à prix modique.
Systématiquement, on va s'efforcer d'être à moins de 10 euros. Donc entre l'humeur du ghetto de Luino, il est à 7,95 et prison à 9,95. Donc systématiquement, de 10 euros.
Est-ce que les titres que vous avez choisis dans cette collection de l'Antilopoche éclairent un petit peu votre mission ? Alors, on en a souvent discuté, hein, qu'est-ce que c'est qu'être un éditeur juif ? Mais les contes juifs, le discours sur les juifs, Agathe Ouchinski, etc. Eh bien, est-ce que c'est pas ça, en fait, la ligne directrice de votre maison d'édition ?
Ah, bien sûr, l'Antilope publie des livres qui rendent compte de l'existence juive d'une façon générale, d'une façon ou d'une autre. Le comte de Clermont-Tonnerre n'était absolument pas juif, bien entendu. Ludovic Herman Mwanda, il est français d'origine camerounaise, il s'identifie comme juif à l'heure actuelle, mais il ne s'est pas converti au judaïsme. Et il aborde des questions qui concernent le judaïsme aussi dans ses livres. Et c'est vraiment, nous, on veut travailler ces questions et ces sujets par tous les bouts, disons, c'est ce qui nous intéresse.
Et Jonathan Berg aussi. Alors, est-ce que c'était cette année ou l'année précédente, Psagot, un livre remarquable ?
Quitter Psagot, qui est sorti au mois de janvier, donc il y a quelques mois. C'est un très beau livre sur comment grandir et quitter une implantation juive de Cisjordanie parce qu'on n'arrive pas à s'inscrire ni dans l'idéologie religieuse, ni dans l'idéologie politique.
Et encore une fois, il y a plusieurs lectures, puisque qu'on soit d'accord ou pas, en tout cas, c'est par rapport à l'auteur. Hein,
C'est quelqu'un qui ne juge pas du tout, en fait.
Parce qu'il faut dire que c'était quelqu'un qui vivait dans une implantation et qui l'a quitté, et qui, avec son regard un peu nostalgique, hein, parfois, quand il parle de cette famille qu'il a quittée, qu'il n'a pas retrouvée après, en s'éloignant un peu du judaïsme, eh bien, il a des regrets. Mais son regard est tellement ciselé, pertinent et profond, que tout lecteur peut le lire, même quelqu'un qui dirait, ben, tiens, on va parler de quelqu'un qui quitte les implantations et qui finalement peut-être est critique, mais il l'est, mais avec une vision bienveillante, et c'est ça qui
absolument
fait débat.
Absolument. Alors il nous dit, il nous raconte que quand il défend sa famille qui habite à Psagot, à Tel Aviv, il est considéré comme d'extrême droite en Israël, et quand il retourne voir sa famille à Psagot, il est considéré comme d'extrême gauche par les gens de l'implantation. Donc c'est ça qui est drôle, et c'est vraiment un livre qui n'est pas dans le jugement, et c'est ça qui est formidable
et qui est remarquable, et qui est aussi à reconnaître. Est-ce qu'on trouve facilement la collection de l'Antilopoche ?
Alors, d'une façon générale, l'Antilope est diffusée dans les librairies de centre-ville, en général. Donc, les bonnes librairies, sérieuses, petites ou grandes, d'ailleurs. Mais c'est vrai que, de plus en plus, on a dit à nos diffuseurs, les centres culturels Leclerc, les Cultura de centres commerciaux, on se rend compte que l'Antilopoche, ça n'atteint pas son public là-bas. Donc c'est vraiment des librairies quoi. Donc, et la collection de poche a été extrêmement bien accueillie par ces libraires, donc on est présent dans 500 ou 700 libraires de France.
Alors pour conclure, c'est peut-être pas votre rôle, hein, mais ça l'est aussi peut-être en tant qu'éditeur, comment on peut convaincre les gens de lire davantage, de lire vos ouvrages, et pour aider justement à ce que le moral remonte un petit peu?
Alors moi, je dois vous dire que depuis quelques mois, j'ai décidé d'éteindre mon téléphone à 9h le soir et le rallumer à 9h du matin, et ma vie a changé. Je trouve ça merveilleux de me dire que le soir, je suis seul et je lis, ou éventuellement je regarde la télévision, mais c'est vraiment un retour sur soi qui est extraordinaire. Et c'est vrai que la lecture, c'est... quand on a un livre, on n'est jamais seul, en fait. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire.
Merci infiniment. J'espère qu'on vous reverra bientôt pour parler d'un titre en particulier et vos nouveautés.
Avec grand plaisir.
Bonsoir et merci encore une fois, Gilles Rosier, des éditions de l'Antilope et de l'Antilopoche, d'avoir parlé avec nous de cette nouvelle collection. Et on ne peut que recommander, évidemment, aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire, de vous lire et de lire en général. Bonsoir et à bientôt.
Bonsoir.